spirituel aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance, il y a 391 ans, d'une des femmes les plus remarquables de l'histoire du Québec, Jeanne Mance. Jeanne Mance, une sorte de féministe dans un sens, une grande féministe, une sainte, une femme d'un courage, d'une audace. Elle a été cofondatrice de Ville-Marie, de Montréal, quoi. Elle a aussi été la fondatrice de l'Hôtel Dieu, le grand Hôtel Dieu, où sont les merveilleuses hospitalières de Saint-Joseph, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Jeanne Mance, quelle femme fantastique, quelle audace, quel courage. Je peux pas m'empêcher de dédier cette émission-là à ces jeunes filles de 15 ans qui m'ont écrit, la Daphné, Hélène, Catherine, Marisa, Karine, Marie-Hélène et Fuang Vico. Oui, je leur dédie ça parce que c'est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a eu une histoire de Montréal qui a été écrite il y a bien longtemps, au début, par un sulpicien qui s'appelait Monsieur Delier de Casson. Et puis, on y trouve beaucoup de choses sur Jeanne Mance qui sont très intéressantes. Il s'est inspiré, lui, des relations des Jésuites. Les Jésuites écrivaient des relations, c'est-à-dire des lettres, des grandes lettres, si vous voulez, qu'ils adressaient à leurs supérieurs à Paris. Et puis, son œuvre, Adelier de Casson, son histoire de Montréal, c'était destiné à ses confrères qui étaient des sulpiciens comme lui. Vous savez, les sulpiciens qui s'occupent de l'église Notre-Dame à Montréal. Et depuis toujours, depuis le début de la colonie, ils sont là. Oui, et puis, ils sont quasi fondateurs de Montréal, les sulpiciens. C'est eux qui dirigent le grand séminaire de Montréal, sur la rue Sherbrooke-Ouest, là, près du métro Guy. C'est une chapelle magnifique, il faut aller voir un jour. Allez-y, le troisième mercredi du mois, le soir, il y a une belle messe pour les vocations. C'est superbe, c'est très très beau, hein. Et alors, Delier de Casson, il destinait, lui, son histoire de Montréal aux sulpiciens, puis à leurs élèves en France, pour entretenir chez eux le désir d'aider les missions ici, au Canada, et puis pour garder le souvenir aussi de tout ce qui s'était fait, puis tout le développement de la jeune colonie française qui naissait ici au 17e siècle, vers les 1600. Et puis, à Montréal, ben, c'était assez différent de Québec. On était attaqué par les Iroquois continuellement ici à Montréal. Alors, il est évident que Jeanne Mance a parlé le moins possible d'elle-même. C'était une femme courageuse et forte, mais humble et discrète sur elle-même. Et puis, elle n'a pas dit grand-chose sur ses origines. Alors, quand on lit Delier de Casson, là, on voit pas grand-chose sur sa jeunesse. Mais on en trouve ailleurs. Comme je vous ai dit, Jeanne Mance est née le 12 novembre 1606. C'est l'anniversaire, je vous le rappelle, 391 ans aujourd'hui. Elle était la deuxième enfant d'une famille de 12. 6 garçons, 6 filles, une belle famille, hein. L'aînée avait presque 18 ans quand la dernière a vu le jour, le 13 septembre 1623. En 18 ans, 12 enfants. Les Mance, cette famille des Mance, M-A-N-C-E, comme vous savez, appartenait à la bourgeoisie de robe, comme on dit dans le temps. Et puis, ils portaient des armoiries. Donc, ils avaient une certaine distinction, une certaine noblesse. Bon, c'est pas tellement important. Le père de Jeanne Mance est venu s'installer à Langres. Langres, c'est là où elle est née, donc. Et où il est connu comme praticien, dit-on dans des vieux textes, ou commis au greffe criminel du siège royal de Langres. On se donnait bien des titres avec le mot royal dans ce temps-là. Puis il était procureur aussi. Bon, il avait épousé une demoiselle Émono. J'ai jamais vu ce nom de famille-là. Émono. Anne-Catherine de son prénom. Je vous donne les noms des 12 enfants. Ce sont de beaux noms en général. Marguerite, la première. Puis ensuite Jeanne Mance, qui est partie au Canada pour fonder Montréal. Puis ensuite Marie, Nicolas, Jacques. Puis une fille qui s'appelle Barbe. C'était une grande dévotion à l'époque, Sainte Barbe. C'est un nom curieux pour une fille. Et puis, il y a eu Pierre aussi, puis Claude et Charles. Et puis un autre Claude, parce que le premier est mort. Et puis Élisabeth et Catherine, enfin. Alors, au nombre de ses cousins germains, qui étaient les enfants d'une sœur de son père, Mais Jeanne Mance a compté des proches parents qui étaient des prêtres importants. Deux, surtout, étaient des prêtres importants. Donc, la famille Mance présente, on peut dire, des traits communs à toutes sortes de lignées de familles qui étaient proches de la noblesse, là. Qu'est-ce que c'est que ces familles-là? Ce sont des familles catholiques de tradition, qui possèdent de nombreux prêtres dans la parenté, et souvent des prêtres cultivés, qui forment l'élite du clergé en province, là, en dehors de Paris. Les Mance, c'est une famille qui possède des attaches à Paris même, mais qui est pourtant profondément enracinée dans sa province d'origine. C'est la Champagne, près de la Lorraine, et puis... C'est à l'âge de 13 ans, en 1661, que la jeune Marie Morin, dont je vous ai parlé le 8 avril dernier, qui est l'auteur des annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est la première hospitalière de l'Hôtel-Dieu, la première canadienne. Et ça, dans les annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, on trouve toutes sortes de renseignements sur la vie de Jeanne Mance aussi. Et puis, Marie Morin, bataillait pour obtenir l'autorisation de ses parents pour entrer en religion. C'était aussi difficile d'obtenir cette permission-là de Monseigneur de Laval, qui était à Québec, et il l'a trouvé trop jeune. Mais de toute façon, Marie Morin, qui est une femme bien importante, je vous rappelle, j'ai fait son émission le 8 avril dernier, et les cassettes sont disponibles. C'est pour ça que je vous les mentionne. Des fois, il y a des gens qui se demandent pourquoi je mentionne ça. C'est que toutes les cassettes, depuis le début, depuis plus de 2 ans, sont disponibles auprès de Marc Alexandre. Je vais donner le numéro de téléphone à la fin de l'émission. Donc, Jeanne Morin, la sœur Morin, a connu intimement Jeanne Mance après près de 12 ans, durant 12 ans. Elle a vécu auprès d'elle toute la période de sa formation à la vie religieuse. Beaucoup plus tard, en 1697, lorsqu'elle va commencer à rédiger ses annales de l'Hôtel Dieu de Montréal, elle va pouvoir évoquer ses souvenirs. Elle dit « J'ai plus de connaissance de ces choses que beaucoup d'autres. J'en parle hardiment, étant la première fille qu'elles reçurent en leur sainte compagnie, la troisième année après leur arrivée en Canada, les hospitalières. J'ai eu le bonheur d'être témoin oculaire de presque tout ce qu'elles ont fait souffrir. Et ne croyez pas, mes sœurs, que j'exagère, mais persuadez-vous, comme il est vrai, que ce n'est pas la moindre partie et que c'est pour votre récréation que je prends plaisir à écrire ceci. Or, dans les annales, elle dit de Jeanne Mance qu'elle s'était donnée et consacrée à Dieu par le vœu de chasteté à quel âge? Ça semble invraisemblable. Entre 6 et 7 ans. Alors, ça peut sembler étrange. Expliquons-nous, Jeanne Mance ne savait évidemment pas qu'est-ce que ça voulait dire que s'engager comme ça à être chaste à cet âge-là. Mais sa vie spirituelle, on peut dire, était tellement éveillée qu'elle comprenait par là qu'elle promettait d'appartenir uniquement à Dieu pour le restant de ses jours et de se consacrer à faire du bien. Par la grâce de Dieu. Marie de l'Incarnation, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, cette Ursuline de Québec, qui avait déjà été mariée, qui a eu un fils qui est devenu moine bénédictin en France. Bien, Marie de l'Incarnation se souvenait pour sa part, elle est une des plus grandes mystiques de toute l'histoire de l'Église, qui a vécu à Québec, elle est ensevelie à Québec, c'est une très très grande sainte. Marie de l'Incarnation, donc, se souvenait, pour sa part, de s'être engagée à Dieu au même âge, non pas sous la forme d'un vœu de chasteté, mais d'une façon où elle s'est donnée à Jésus qui le lui demandait. Elle écrit, « Lors lui, le plus beau de tous les enfants des hommes, avec un visage plein de douceur et d'un attrait indicible, m'embrassant et me baisant amoureusement, me dit, « Voulez-vous être à moi? » Et je lui répondis, « Oui. » Alors, le vœu est probablement la conséquence d'un événement de la vie intime de Jeanne Mance, et c'est comme ça qu'elle s'est donnée. Alors, la mission des laïcs, à cette époque, était assez extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de laïcs qui ont participé à la Fondation de Montréal, qui se sont donnés. Hein. Et selon le Concile Vatican II, ça a été promulgué et propagé encore davantage. Mais je me demande jusqu'à quel point nous répondons au Concile Vatican II. Car quand on regarde ça de près, là, l'histoire de Montréal, c'est extraordinaire de voir ces laïcs qui ont fait Énormément pour Ville-Marie, pour Montréal. Ces laïcs fervents qui étaient issus de la France du 17e siècle, alors qu'il y avait tout un vent de mysticisme qui soufflait sur la France, mais ces laïcs ont été animés par l'Esprit de Dieu. Ils se sont laissés interpeller. Puis ils ont répondu avec audace, avec générosité, à cet appel très puissant de porter au-delà de l'océan Atlantique la parole de Dieu, puis d'y aider les gens à connaître Dieu puis à l'aimer. Hein? Je vous ai dit que Jeanne Mance était la deuxième d'une famille de 12 enfants. Elle perd sa mère alors qu'elle a à peu près 20 ans. Elle prend alors, avec sa sœur aînée Marguerite, la direction de ce foyer. Et puis, sœur Marie Morin, dont je vous ai parlé, la première hospitalière de Saint-Joseph, née au Canada, a donc passé 11 ans à côté de Jeanne Mance. Et dans ses annales, elle nous révèle des confidences que lui a faites Mademoiselle Jeanne Mance. Entre autres, qu'elle vécut en grande dévotion dans la maison de Monsieur son père, qui ne s'y opposa jamais, je vous lis le texte, par l'amour tendre et la complaisance qu'il avait pour sa fille, qui, de sa part, agissait en toutes choses avec tant de prudence et de vertu qu'elle ne lui causa jamais aucun chagrin pour ses dévotions qu'elle ajusta toujours à sa volonté. Donc, une parfaite entente entre son père et Jeanne Mance. Elle est pieuse et son père ne la dérange pas, ne la blâme pas, ne lui dit pas toutes sortes de sottises pour l'empêcher de prier. Vers la trentaine, bon, on avance beaucoup, elle a 30 ans à peu près, Jeanne Mance perd son père. Alors, sœur Marie Morin écrit, Mademoiselle Mance se détermine plus que jamais d'être tout à Dieu et de souffrir quelque chose pour se rendre plus conforme à Jésus-Christ, qui a tant souffert par amour, qu'elle avait choisi, ce Jésus-Christ qu'elle avait choisi pour son époux dès sa tendre jeunesse, hein, à l'âge de 6 ou 7 ans. Et c'est donc avec un cœur tout à fait extraordinaire que Jeanne Mance va répondre à l'appel en faveur des missions de la Nouvelle-France, du Canada, du Québec. La personne que Dieu a choisie là, pour lui parler de ses missions, ça va être son cousin. Je vous ai dit qu'elle avait des cousins remarquables, des prêtres remarquables. C'est Nicolas Dolbeau. Il est chapelain, pas de n'importe quoi, de la Sainte-Chapelle de Paris. Avez-vous déjà vu cette Sainte-Chapelle? C'est une des églises les plus extraordinaires du monde. On dirait que c'est tout en verre, tellement les vitraux sont nombreux. Il n'y a que peu de pierres pour tenir tous ces vitraux. C'était construit pour garder les reliques de Jésus, hein, par Saint-Louis. Alors, donc, il est chapelain de la Sainte-Chapelle à Paris. Il est frère d'un jésuite, le père Jean Dolbeau, qui va se rendre au Canada bientôt. Alors, de passage à Langres, en avril 1640, il parle avec sa cousine de l'installation à Québec, l'année précédente, des sœurs Augustines de Dieppe, puis des Ursulines avec Marie de l'Incarnation. Elles étaient accompagnées, dit-il, de leur bienfaitrice, Madame de la Pelletrie. Voilà une autre laïque. Et puis, Jeanne Mance n'hésite pas à la suite de cette conversation. Elle sent la vocation missionnaire. Alors, il lui serait donc possible, à elle aussi, de se rendre là-bas. Et le texte rapporte, lui semblant que cela lui aiderait à gagner les bonnes grâces de celui à qui seule elle cherchait à plaire, Jésus, évidemment. Après la pensée, le désir vient, et en elle, si fort, qu'elle se résolut de venir à Paris pour chercher les moyens d'aller au Canada. Alors, comme on le voit souvent dans les vocations, la vocation de Jeanne Mance, ça surgit comment? Bien, c'est à cause qu'il y a des influences. N'oublions pas, nous pouvons influencer dans le bon sens, là, des vocations. Alors, il y a eu sa famille, il y a eu son éducation, il y a eu aussi des relations qu'elle a eues. Puis sa foi chrétienne, nourrie dès son jeune âge. Il y a eu aussi, chose curieuse, sa ville qui a été dévastée par la guerre, qui a été éprouvée aussi par des épidémies qui ont tué beaucoup de monde. Et puis tout ça, ben, ça a cultivé comme une espèce de terrain favorable à sa mission future. Déjà du haut des remparts de Langres. Et Langres s'est construit sur un peu comme à Vézelay, si vous êtes allé à Vézelay, ou c'est sur une montagne, c'est sur le haut, une grande colline. Alors, du haut des remparts, même, parce que les rois ont construit des remparts autour de Langres, mais là, elle va, puis elle a découvert les horizons immenses de la vallée de la Marne. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs, la vallée de la Marne, hein, des grands combats de la guerre 14-18. Et tout ça, ça l'a préparé à contempler les vastes étendues du Québec, du Canada. Puis le vent d'Est ici, puis notre vent du Nord, dont on a à souffrir assez souvent, hein. Ça existe là-bas aussi, puis ça... elle souffrait du froid de temps en temps. Alors, elle a appris à ne pas craindre le froid de notre pays. Et le 30 mai, le mercredi de la Pentecôte, 1640, donc 2 ans avant la fondation de Montréal, elle quitte résolument son rocher de Langres. Elle est sûre de sa vocation et de sa foi. Quelle femme formidable. Elle part. À Paris, les événements, puis les rencontres vont préciser sa vocation. Puis ça va affirmer sa foi. Le père Charles Lallemand, un jésuite qui est revenu du Canada depuis 2 ans, rencontre Jeanne puis reconnaît chez elle un véritable appel missionnaire. Le fameux père Jean-Baptiste Saint-Jure, qui est recteur du noviciat de la Compagnie de Jésus, des jésuites, va confirmer, après l'avoir guidé durant une retraite de 10 jours, oui, il dit, une vraie vocation, voilà, une femme forte. Et le père Saint-Jure lui apprend le départ prochain à La Rochelle d'un premier bateau qui s'en va à Montréal, hein, le premier. Entre-temps, une autre rencontre lui indique toute la modalité de son apostolat en Nouvelle-France, hein. Et puis elle rencontre Madame Claude de Bullion, grâce au père Charles Rapineux Récollet. Puis au courant de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec, par la fameuse duchesse d'Aiguillon qui nous a tant aidés, mais Madame de Bullion, qui est extrêmement généreuse pour nous, demande à Jeanne Mance si elle accepterait d'établir dans le pays où elle se rend un hôpital en son nom. Jeanne Mance prie, elle consulte, elle accepte. Dieu l'éclaire. Dieu l'éclaire, alors elle voit clair. Elle sait. Et au printemps de 1641, juste l'année avant la fondation de Montréal, elle est encouragée puis soutenue par Dieu. Elle le sent au fond d'elle-même. Hein. Alors Jeanne Mance, cette future fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, se dirige vers le port de La Rochelle, hein, qui donne sur l'Atlantique, je vous le rappelle. Et c'est là qu'elle rencontre Jérôme Leroyer de la Dauversière. Lui, je vous en ai parlé en 2 émissions, les 6 et 7 novembre 1995, il y a déjà 2 ans. C'est l'initiateur, Jérôme Leroyer de la Dauversière, c'est l'initiateur du projet de Montréal. Puis il est le fondateur, savez-vous, de la communauté des filles hospitalières de Saint-Joseph. Oui, cet homme marié qui a fondé une congrégation religieuse. Oui, je vous ai tout raconté ça. Alors, il invite Jeanne Mance à travailler à cette grande œuvre missionnaire puis à adhérer à la Société de Notre-Dame de Montréal, qui veut fonder Montréal. Il a établi ça en 1639. Oui. Et les 3 associés qui sont présents à La Rochelle, Monsieur de la Dauversière, Monsieur le baron de Francan, puis Monsieur de Maisonneuve, celui qui est venu à Montréal, accueillent Jeanne Mance dans leur rang comme un présent que le ciel leur fait. C'est ce que Monsieur Delier de Casson écrit dans son histoire de Montréal. Alors elle va partir pour le Canada en qualité d'infirmière puis d'économe. Infirmière puis économe. Quelle femme! Elle a déjà des qualités énormes, hein, pour la colonie de Montréal. Elle s'entend avec Paul Chemédé, sieur de Maisonneuve, hein, qui est tout jeune, hein, c'est un jeune chef. Et puis, elle s'entend pour les détails là, de l'embarquement. Et avant de quitter la France, bien, Mademoiselle Mance songe à donner au plus tôt de l'extension à la Société Notre-Dame. Hein. Alors, elle demande à Monsieur de la Dauversière, Jérôme Leroyer de la Dauversière, de mettre par écrit son plan, de lui en faire des copies, qu'elle va envoyer à toutes ces dames qui avaient voulu la voir à Paris. Et selon Monsieur Delier de Casson, il accepte, parce que, dit-il, il estime que rien ne pouvait être mieux pensé. Il dressa le projet, fit faire des copies qu'il lui mit en main. Ensuite, de quoi elle accompagna chaque copie d'une lettre et en fit un paquet séparé. Après, elle lui remit le tout, afin de s'en servir selon sa prudence lorsqu'il serait à Paris. Alors c'est pour répandre l'intérêt pour Montréal, et le succès va répondre à l'attente de ces 2 apôtres, puis ils vont voir le nombre des membres de la société passer de 8 à 35. Quand on comprend la grandeur d'une œuvre, souvent, on s'enregistre, on rentre dedans. On veut faire quelque chose. Hein? Et le 9 mai 1641, un an avant la fondation de Montréal, Jeanne Mance s'embarque pour la Nouvelle-France sur le navire où prennent place une douzaine de colons. Il y a aussi le père Jacques de Laplace, un jésuite. Le 8 août, donc du 9 mai au 8 août, c'est la traversée. Elle débarque à Québec le 8 août. Le bateau où montait M. de Maisonneuve ne va arriver que quelques semaines plus tard, parce que ce sont des traversées difficiles, il y a souvent des tempêtes. Hein. Et toute la recrue, comme on appelle ça, les gens là qui vont aller à Montréal, ben passent l'hiver à Sillery. Vous connaissez ça, Sillery, près de Québec. À la maison du fief Saint-Michel, c'est un domaine de M. de Puiseau qui se montre d'une grande générosité pour cette œuvre d'apostolat et colonisation. Il y a de l'entraide, même si nous sommes peu nombreux à l'époque. Et alors que la colonie de Montréal fait sous la direction de son chef Paul Chomédy de Maisonneuve et de Jeanne Mance les préparatifs en vue de la future fondation, un événement significatif se passe à Paris. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 27 février 1642. Il y a des membres de la Société de Notre-Dame qui se réunissent, dit le vieux texte, sur les 10 heures du matin en l'église de Notre-Dame de Paris devant l'hôtel de la Sainte Vierge. Et là, tous ensemble, ils consacrèrent l'île de Montréal. Savez-vous que l'île de Montréal est consacrée à la Sainte Famille de notre Seigneur? Et ici, nos familles sont en désarroi très souvent. Quelle tristesse, hein? Donc, le texte dit, ils consacrèrent l'île de Montréal à la Sainte Famille de notre Seigneur, Jésus, Marie et Joseph, sous la protection particulière de la Sainte Vierge. Ils se consacrèrent eux-mêmes et s'unirent en participation de prières et de mérites afin qu'étant conduits d'un même esprit, ils travaillent plus purement pour la gloire de Dieu et pour le salut de ces pauvres peuples. C'est dans la relation des Jésuites de 1642. Alors, à cette occasion, on choisit pour la future ville de Montréal le nom de Ville-Marie, puis on prie la Sainte Vierge de veiller sur elle d'une façon toute particulière. Puis le samedi 17 mai de la même année, je vous ai tout déjà raconté ça, Paul de Maisonneuve, le Jeanne Mance, puis les colons prennent possession de l'île. Et le lendemain, bien, un dimanche, le père Vimont, jésuite supérieur de la mission de Québec, célèbre la première messe, une messe solennelle sur un hôtel de fortune, préparé par Mademoiselle Mance et Madame de la Peltrie, qui l'avait suivi à Montréal. Madame de la Peltrie, qui était très riche. La cofondatrice de Ville-Marie est désormais engagée dans une grande aventure, qui est en fait une aventure mariale dans un certain sens. Elle commande la Société de Notre-Dame. Elle fait sien tout le but de cette société, la conversion quoi des sauvages, comme on disait, des Amérindiens, de la Nouvelle-France, puis le rassemblement dans l'île de Montréal. On voulait qu'on... Puis établir un mouvement de charité spirituelle et corporelle à l'égard de ces gens. Et puis, Jeanne y adhère totalement. Hein. Sous son initiative, les fêtes de la Vierge Marie vont devenir des temps forts de célébration puis de réjouissance à Montréal. Ainsi, le 15 août 1642, donc quelques mois après la fondation, est célébrée avec solennité déjà la fête de l'Assomption. Dans la petite chapelle de 9 sur 10, pas grand, hein. Un beau tabernacle qu'on installe, qui est envoyé par les Sulpiciens de Paris, il est placé sur l'autel, où l'on a mis aussi les noms de ceux qui soutiennent le projet de Dieu en la Nouvelle-France. Et on continue le texte, « Toutes les bonnes âmes qui s'y rencontrèrent se communièrent. » C'est dans la relation des Jésuites, ça. De 1642. Chacun s'efforça de bannir l'ingratitude de son cœur. C'était fondé comme ça, hein? C'est beau, hein? Et de se joindre avec les âmes saintes qui nous sont unies par des chaînes plus précieuses que l'or et que les diamants. Le corps mystique, quoi. L'on chanta, dit le texte, le Te Deum, c'est-à-dire un chant d'action de grâce, hein? Action de grâce de ce que Dieu nous faisait la grâce de voir le premier jour d'honneur et de gloire. Le tonnerre des canons fit retentir toute l'île, et les démons, quoique accoutumés aux foudres, furent épouvantés d'un bruit qui parlait de l'amour que nous devons à la grande maîtresse, c'est-à-dire la Sainte Vierge, la Mère de Dieu. À la fête religieuse, qui s'est terminée par le chant des vêpres et une belle procession, quelques indigènes, quelques Amérindiens l'ont assisté, qu'ils étaient bien étonnés, dit le texte, d'une si sainte cérémonie, et se sont joints aux prières avec beaucoup d'affection. Comme ils le déclarèrent au cours de la visite que l'on fait ensuite des grands bois qui couvrent cette île, Ils sont de la nation de ceux qui avaient autrefois habité ce territoire. Alors cela éveille dans le cœur de Jeanne Mance l'espoir de les voir se fixer à Montréal, puis de les amener plus aisément par une vie stable à la connaissance puis à la pratique de la foi catholique. Si vous voulez connaître mieux Jeanne Mance, je ne saurais trop vous recommander de lire le livre d'un bénédictin de Solesmes, dont Guy-Marie Houry, qui vit parmi nous depuis très longtemps. Jeanne Mance est le rêve de Monsieur de la Dauversière, mais le Jeanne Mance est un très gros titre. C'est publié, c'est CLD. Et ça date déjà de quelques années, mais c'est admirablement bien fait, c'est considérable, c'est plus de 200 pages. Très, 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 très intéressant dans les moindres détails. Ceux qui s'intéressent à l'histoire, le lisez ça, Jeanne Mance, de Dom Guy-Marie Houry, O-U-R-Y, chez CLD. C'est distribué par CMD. Il y a une maison de distribution de livres, de toutes sortes de maisons françaises ou d'ailleurs, CMD. C'est eux qui distribuent ça à Montréal. Alors dites à votre libraire que vous voulez Jeanne Mance de Dom Houry. Je m'inspire d'ailleurs pour cette émission un peu de ce livre et aussi d'un très beau texte de Sœur Thérèse Payet, religieuse hospitalière de Saint-Joseph à l'Hôtel-Dieu, qui a dirigé le centre Jeanne Mance. Je crois qu'elle le dirige toujours. Vous savez qu'il y a un beau musée des hospitalières sur l'avenue des Pins à l'Hôtel-Dieu. Il faut visiter ça, très beau musée. Vous allez être ravis, surtout les nouveaux Québécois, là. C'est là que vous allez voir nos racines, les racines de ce peuple auquel, j'espère, vous réussissez à vous intégrer malgré tous nos défauts. Alors donc, il a fait Jeanne Mance un premier voyage en France en 1649. Pendant près de 25 ans, avec des hauts et des bas, la Société de Notre-Dame de Montréal veille sur la cité de Ville-Marie. Jeanne Mance est fortement engagée dans ce groupe. Elle l'aide de toutes ses forces à réaliser sa mission. Et ainsi, en 1649, donc, elle entreprend son premier voyage en France. Elle veut raviver le zèle des associés. Elle veut réorganiser la société. Alors, elle soutient l'effort de celui qui travaille tant à Montréal. Monsieur, pour Montréal, et Monsieur de la Dauversière qui vit en France. Suite aux démarches de Jeanne Mance, la société se reprend à vivre grâce à l'appui que lui accorde désormais Monsieur Jean-Jacques Ollier, dont je vous ai parlé le 2 avril dernier. C'est le fondateur, lui, de la Compagnie de Saint-Sulpice. On peut dire que c'est un cofondateur aussi de Montréal dans un certain sens. Et après cette réorganisation entreprise par Jeanne Mance, on fait exécuter un sceau qui représente Notre-Dame, bien oui, qui porte sur son bras droit un enfant Jésus, qui est entouré d'un liséré d'argent avec une inscription « Notre-Dame du Montréal ». Oui, du Montréal. Comment entend le rôle joué par Jeanne Mance, là, dans les moments difficiles de la colonie? On peut lire dans une histoire de Montréal écrite par Camille Bertrand ce qui suit. Ce fut une femme, Jeanne Mance. Je vous ai dit que c'était une féministe dans son genre. Hein. Ce fut une femme qui empêcha l'anéantissement de Montréal et en est devenue par son geste héroïque comme la seconde fondatrice. Dans les occasions critiques, Jeanne prie la Sainte Vierge. Elle le fait particulièrement lorsqu'en 1650-1651, il y a les Iroquois qui menacent d'engloutir tout Ville-Marie. Puis il y a la panique qui règne chez nos ancêtres, les colons désespérés. L'un de ces colons s'appelait Prudhomme, c'est l'ancêtre, Monsieur Louis Prudhomme, de notre Robert Prudhomme, qui fait des émissions ici chez nous, le mardi après-midi à 5h15, là. Analyse des livres, fait entendre du Mozart aussi. Alors laissons parler Jeanne Mance dans le document. Raison pour lesquelles j'ai fait prendre 22 000 livres de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour du secours pour l'habitation. C'est une somme énorme, 22 000 livres. Son témoignage est un véritable discernement spirituel. Elle voit bien la situation périlleuse de Montréal. Elle explique comment elle en est venue à poser le geste sauveur de 1653. En 1653, 11 ans après la fondation, qu'elle sauve Montréal dans un sens. En l'année 1650, les Iroquois, après la défaite qu'ils firent des Hurons, vous savez, ils avaient massacré tous les Hurons, étant devenus beaucoup plus orgueilleux et insolent qu'il n'avait encore été, mais les Iroquois recommencèrent à nous incommoder, à nous attaquer si souvent et si fréquemment qu'ils ne donnaient point de relâche. Et là suit une phrase de 14 lignes, on dirait du Marcel Proust. Je vais essayer de la lire, c'est pas facile. Il ne se passait quasi point de jour qu'on ne découvrit quelque embûche et qu'il n'y eut quelques alarmes. Ils nous environnaient et tenaient de si près nos maisons qu'ils avaient toujours quelques espions à l'abri de quelques souches. Et cela vint à telle extrémité qu'il fallut faire abandonner les maisons aux habitants et les retirer et mettre les familles dans le fort, l'hôpital étant seul éloigné de secours, et qui n'en pouvait être assisté la nuit, si ils eussent fait quelques efforts, s'ils en firent en d'autres lieux où ils mirent le feu. Ils eussent sans doute ou brûlé, ou pris, ou enlevé la maison où j'étais et tout ce qu'il y avait dedans, ce qui obligea monsieur le gouverneur de Maisonneuve de m'obliger de me retirer dans son fort. Et afin de conserver la maison de l'hôpital, il fit mettre une escouade de soldats en garnison dedans, et il fit mener 2 pièces de canon et mettre des pierriers aux fenêtres des greniers et faire des meurtrières partout alentour du logis, haut et bas, et dans la chapelle qui servait de magasin d'artillerie, et tous les jours où peu s'en fallait, il recevait quelques attaques. Je vous ai lu ça seulement pour vous montrer dans quel état d'angoisse ces gens-là vivaient. Je pourrais continuer comme ça, mais ils peuvent dire que c'est la Sainte Vierge qui les a guidés. Elle dit à un moment donné, il m'avait en pensée que si... que je savais qu'il y avait 22 000 livres prêtes à être remboursées par Monsieur de Rancy, Gaston de Rancy, dont je vais vous parler le 24 avril prochain, que ce serait un bon moyen de prendre cette somme pour l'employer, à m'amener des hommes, pour conserver cette habitation plutôt que de l'abandonner faute de secours à la merci de ces barbares. Alors, on prie, on jeûne, on a recours à la Sainte Vierge. Et Monsieur de Maisonneuve va se rendre en France pour chercher du renfort. Hein. Il lui faut ramener au moins 100 hommes. « Sinon, dit-il, il ne reviendra pas. » Alors il prend le bateau le 5 novembre 1651. Ce voyage va se prolonger jusqu'en 1653. Le temps para bien long à Jeanne Mance. C'est elle qui garde la place, qui doit relever le moral des habitants. Elle devient gouverneur, pour ainsi dire. Disons que c'est la première mairesse de Montréal. Et enfin, le 22 septembre 1653, le vaisseau qui ramène le gouverneur de Montréal, M. de Maisonneuve, jette l'ancre au port de Québec. Il revient avec une recrue de 100 soldats ouvriers que M. de la Dauversière a choisi avec beaucoup d'intelligence. Il y a là une champenoise, courageuse. C'est Sainte Marguerite Bourgeois qui les accompagne. Et tout de suite, les hommes font preuve de leur adresse, tout autant que de leur courage, ce renfort est si bénéfique qu'on parle de cet événement comme la seconde fondation de Montréal. Par sa décision perspicace, Jeanne Mance a sauvé une seconde fois la colonie. C'est M. Fayon qui écrit dans sa vie de Mademoiselle Mance, au jugement des personnes les plus éclairées et les plus impartiales, le renfort que Jeanne Mance procure est le salut de toute la colonie française. Alors après ces années de désolation puis de carnage, Jeanne Mance ne connaît que peu de répit. Il y a une autre épreuve qui va s'abattre sur elle. Le 28 janvier 1657, elle tombe sur la glace. Ça lui rompt les 2 os de l'avant-bras droit. Imaginez le bras droit, elle n'en a plus, pour ainsi dire. 2 os sont brisés. Le chirurgien de l'hôpital, il réduit la double fracture, mais il ne se rend pas compte qu'il y a une dislocation au poignet du même bras. C'est une erreur qui engendre toutes sortes de conséquences. Sœur Marie Morin raconte, « Cette rupture fut extraordinaire et sans plaie et ne put être guérie par tous les remèdes humains qui ne lui furent pas épargnés, hein, au moins tous ceux qu'on pouvait avoir en Canada, car étant aussi considérée et estimée qu'elle l'était, tout ce qu'il y avait de personnes distinguées, même les gouverneurs, se sont intéressés au recouvrement de la santé de Jeanne Mance, mais inutilement. Alors cette infirmité a créé un sérieux handicap, et là vous allez assister à un miracle fantastique. Cette pauvre administratrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance, songe aux difficultés qui retarde l'arrivée puis l'installation à Ville-Marie des hospitalières de Saint-Joseph que Monsieur de Maisonneuve, au retour d'un nouveau voyage en France en 1657, lui a annoncé. Jeanne Mance réfléchit. Elle s'abandonne à Dieu. Elle observe les événements, elle essaie de lire qu'est-ce que les événements veulent dire. Et c'est ainsi qu'elle décide de se rendre encore en France une deuxième fois. Et le 14 octobre 1658, courageuse, cette femme, elle s'embarque encore. C'est des traversées de 2-3 mois. Elle s'embarque à Québec en compagnie de son amie, Sainte Marguerite Bourgeois, qui lui procurera soins et assistance, car son bras en écharpe, ça lui cause des douleurs. Ça lui cause bien des désagréments. Sœur Morin raconte que Mademoiselle Mance, étant arrivée à La Rochelle, prit le chemin qui conduisait à la Flèche pour voir les filles de Saint-Joseph qui lui étaient promises et conférer avec Monsieur de la Dauversière de toutes ces choses. Et leur fondateur, Monsieur de la Dauversière. Alors, elle alla en premier lieu rendre ses devoirs à la Très-Sainte Vierge dans sa chapelle fameuse de la ville de Saumur qui est dédiée à Notre-Dame des Ardiliers. Le cœur de cette pèlerinage, c'est la Vierge des Douleurs. C'était l'objet d'une grande vénération de la part des habitants de la ville de Saumur, puis de toute la région d'ailleurs. Elle répondait à leur confiance, par de nombreuses faveurs, il y avait des miracles qui s'opéraient. Et Jeanne Mance, toujours souffrante, vient chercher auprès d'elle force et réconfort. Elle lui confie les nombreux projets qui font l'objet de son voyage. Elle fait sûrement de même auprès de Notre-Dame du Chef du Pont à La Flèche, la ville de La Flèche. Elle va aussi à Notre-Dame, à Paris, la grande église Notre-Dame. Ensuite, Jeanne Mance se rend, dit la sœur, dans notre maison de La Flèche, la veille de Noël. C'est Sœur Morin qui écrit ça. Elle entend la messe de minuit avec nos sœurs et couche dans la chambre de communauté de sa bonne infirmière. Et sa bonne infirmière, sœur Bourgeois, Sainte Marguerite Bourgeois, passe les fêtes avec elle, avec 1000 consolations de part et d'autre. Et elle demeure 8 jours, tant avec nos sœurs que chez Monsieur de la Dauversière, avec qui elle prend des mesures pour consommer l'affaire de cet établissement de Ville-Marie des sœurs, puis lui promet de faire son possible auprès de Madame de Bullion pour l'engager à fonder les filles hospitalières de Saint-Joseph, comme elle l'avait fait pour l'hôpital. Elle obtient 20 000 livres comptant, c'est énorme, Madame de Bullion lui donne ça. Et maintenant, écoutez bien le miracle. Peu après que Mademoiselle Mance, dit le texte, fut rendue à l'arrivée et arrivée à Paris, après avoir satisfait ses dévotions, mais Jeanne Mance pense à faire guérir son bras, qui est malade depuis 1 an, qui est rompu. Tout ce qu'il y a alors à Paris de médecins, jusqu'au médecin Sa Majesté qui s'y trouve, elle les consulte. Enfin, après avoir regardé, manié, visité ce membre qui est desséché et tout livide, les médecins concluent qu'il est mort, qu'il n'y a pas de remède dans la nature qui puisse guérir ce bras. Ce qui afflige Jeanne Mance, qui a besoin de toute sa conformité à la volonté de Dieu pour accepter de ne pas guérir. Mais la fête de la purification de la Très Sainte Vierge arrive. C'est une singulière dévotion pour elle. À cause, dis-je, Sœur Morin, quelle est la fête propre de l'Église de Montréal? Savez-vous que c'est la fête propre de l'Église de Montréal? La purification de la Très Sainte Vierge. On a ça dans la chapelle du Grand Séminaire, dans le chœur, une grande, grande fresque. Elle se fait porter dans l'Église de Saint-Sulpice pour faire ses dévotions, lui semblant que cela rapproche à sa chère paroisse et l'Église du dit Montréal, qui est desservie par des prêtres de cette paroisse. C'est l'Église de Saint-Sulpice qui est à Paris, vous y êtes peut-être déjà allé. Donc, elle s'approche de l'autel pour faire sa prière. Et elle est attirée par une grande oraison, un grand sentiment de prière, dans laquelle elle écoute Dieu, qui lui donne des suavités très intimes et particulières, dit la sœur Jeanne Morin. Dans le plus fort de sa prière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le cœur de Monsieur Jean-Jacques Ollier, qui est sur l'autel, dans une petite caisse. Elle le prend entre ses deux mains. Elle le tient longtemps. Et aussitôt, qu'est-ce qui arrive? Écoutez bien, elle sent une chaleur s'écouler de son bras mort, qu'elle n'a pas éprouvé depuis sa rupture il y a 1 an. Puis elle s'aperçoit qu'elle le remue et qu'il est hors de son écharpe. Quelques heures plus tard, en présence de Monsieur de Bretonvilliers, supérieur de Saint-Sulpice, et de plusieurs autres sulpiciens, bien Jeanne Mance, se sert de sa main droite pour la première fois pour témoigner de sa guérison. Elle écrit Jésus-Marie-Joseph le 2 février 1659 en la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice. Je écris ces mots de ma main droite après la Sainte Messe de laquelle je n'avais eu aucun usage depuis 2 ans. Et elle signe Jeanne Mans. Monsieur Jean-Jacques Ollier avait toujours eu Jeanne Mans en haute estime et il avait écrit dans ses mémoires autographes « J'ai vu parfois jusqu'en Canada les opérations de Dieu en les âmes de personnes de Montréal, entre autres de Mademoiselle Mans, que je voyais pleine des lumières de Dieu dont elle était environnée comme un soleil. Hein. Il la voyait de loin, à travers l'Atlantique. Il avait cette vision. Ces gens-là étaient des gens extraordinaires. Hein. Cette grâce reçue en la fête de la purification de Marie est pour Mademoiselle Mans une source de grand réconfort. Elle peut enfin maintenant se remettre à l'ouvrage pour préparer avec M. de la Dauversière la venue des hospitalières de Saint-Joseph à Ville-Marie, cette communauté qu'il avait établie, lui, en 1636 à La Flèche, avec Mère Marie de l'Affaire, dont je vous parlerai un jour. Et son courage et ses démarches vont avoir gain de cause, et le fondateur va accompagner les 3 premières hospitalières, Sœur Judith Moreau de Brézol, Catherine Massé et Marie Maillet, jusque sur le navire. Il va les assurer, comme ça, de toute son affection et de son encouragement, puis de ses bénédictions, comme celle d'un père. Alors nous revenons à Jeanne Mans, qui revient au Canada avec les hospitalières. Elle monte sur un bateau qui s'appelle le Saint-André, qui quitte La Rochelle le 2 juillet 1659. Dès le départ, il y a une maladie à bord du navire. C'est terrible, sur 107 personnes qu'il y avait sur le Saint-André, il y en a 18 qui vont mourir. Alors pour les hospitalières, c'est commencer bien difficilement leur mission. Les épreuves qui les attendent en Nouvelle-France vont être nombreuses et pénibles. Pensons au courage de tous ces gens qui nous ont précédés, nous qui sommes assis à regarder la télévision, à ne rien faire de nous-mêmes. Mon Dieu. Jérôme Leroyer de la Dauversière meurt le 6 novembre suivant. Il n'apprend pas que les sœurs sont arrivées au Canada. Il n'a pas cette joie. Alors la cofondatrice de Montréal, Jeanne Mans, durant ses dernières années de sa vie, puis à partir de la mort de sa grande bienfaitrice, Madame de Bullion, en 1664, aura à vivre toute une passion, son plaisir, des souffrances morales. C'est là que sa sainteté se forme encore, parce que la souffrance aide à se dégager de soi-même. Hein? C'est facile à dire peut-être de ma part, mais j'avoue que la souffrance, même quand on l'a dans le crâne, c'est pas grave, on peut passer à travers. Et lorsque Jeanne Mans va rédiger son testament le 3 juin 1669, elle va réaffirmer ce qui a été le cœur de son existence. Le cœur de son existence. Un abandon total à l'amour de Dieu, à sa volonté, qu'il a son amour. « Je remets mon esprit et mon âme entre les mains de mon Dieu, écrit Jeanne Mans, mon souverain Seigneur et Créateur, me soumettant très humblement et dans le plus profond respect qu'il m'est possible à l'ordre sacré de sa très sainte, très adorable et très juste et très aimable volonté, voulant et agréant de tout mon cœur pour le reste de ma vie et pour l'éternité tout ce qui lui plaira d'ordonner sur moi. » Que c'est beau. Alors on est au mois de mai. Jeanne Mans s'alite définitivement. À son chevet se succèdent ses intimes comme sœur Marguerite Bourgeois, Mère Massé, la supérieure de l'Hôtel Dieu, ou Madame Zacharie Dupuis. Et puis la maladie dévore ses énergies. Et par la fenêtre, Jeanne entend le bruit d'un chantier de construction. Elle s'en plaint pas. Elle aime ça. Elle s'en réjouit. Parce qu'on construit la maison de Dieu. L'église. Le 27 mai, la malade reprend une certaine vigueur. Elle désire s'entretenir avec M. Souard, Gabriel Souard. Ce sulpicien, qui est reconnu pour ses talents de chirurgien puis de pédagogue, plaît beaucoup à Jeanne Mans, à cause de son dévouement à la cause de Ville-Marie de Montréal. L'année précédente, Jeanne Mans a ajouté un premier codicille à son testament. Elle nomme M. Souard, d'ailleurs, exécuteur. Donc la malade, Jeanne Mans, est trop faible pour écrire un second codicille qu'elle veut joindre à son testament passé, mais cependant M. Souard peut admirer à loisir la prévoyance lucide qui anime une personne aussi consciente de son état. C'est une forte femme. Et c'est vers l'église de Ville-Marie que courent toutes les pensées de Jeanne Mance. Elle attribue une somme de 100 livres dans son testament pour l'achèvement de l'église et un autre 100 livres pour le tabernacle. Devant cette générosité qui révèle le cœur de Jeanne Mance, M. Suard ose demander ce que tant de montréalistes, comme on les appelait, les montréalistes, souhaitent. On désire donc, puis on lui dit à Jeanne Mance, que son cœur soit détaché de son corps après sa mort et placé sous la lampe du sanctuaire. Elle est touchée de cette requête qui répond si bien à ses intentions secrètes. Et Jeanne Mance accepte. Les jours inévitables se prolongent, 3 semaines. Il y a la jeune Angélique de Sailly, c'est sa filleule, la dernière protégée, elle en a eu 40. Elle était marraine 40 fois. Elle assiste Mère Massé dans les soins de la malade. Enfin, le dimanche 18 juin 1673, elle s'éteint doucement vers les 10 heures du soir. Cette grande femme, célibataire, Jeanne Mance, grande laïque. Tandis que tinte la cloche du glas, ses amis de la dernière heure qui sont agenouillés auprès du corps de Jeanne Mance prient Dieu de recevoir son âme, cette âme généreuse. Les prières se poursuivent toute la nuit. Le lendemain, le bailli et le greffier apposent des scellés sur les meubles, les objets de Jeanne Mance. On dresse l'inventaire de tous les biens. Le testament est remis à M. Suard. On transporte la dépouille dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, où les habitants affluent pour rendre hommage à la grande bienfaitrice. La colonie compte alors environ 1200 à 1500 âmes. La colonie ne compte que 1500 âmes. Pas beaucoup, hein? Mais c'est ça qui nous a formés, c'est eux, ces gens courageux. Alors chacun veut toucher la main si secourable de Jeanne Mance. On compare sa mort à celle de Madame de la Peltrie et de Marie de l'Incarnation, qui est bien heureuse aujourd'hui, qui est survenue l'année précédente. Avec elle disparaît le nom le plus prestigieux de Ville-Marie, Jeanne Mance. Le soir, vers 8 heures, le curé Perrault préside aux obsèques de Jeanne Mance. Oui, le soir vers 8 heures. Le nouveau gouverneur général, Frontenac, est alors de passage à Montréal, dans la chapelle remplie. Les principales personnalités de la colonie assistent à la cérémonie et le corps est inhumé sous la chapelle de l'Hôtel-Dieu et le cœur est scellé dans une boîte d'étain placée sous la lampe du sanctuaire en attendant l'ouverture au culte de la nouvelle église. Alors l'assistance se disperse et recueillie. Les uns rappellent ses qualités d'infirmière. Les autres, ses dons d'administration. C'est une femme extraordinaire. On ne sait plus s'il faut mieux admirer sa charité que son courage. 41 fois, comme je vous ai dit, elle a présenté des nouveaux-nés au baptême. Elle a été marraine. Avec autant d'amour qu'elle offrait un enfant dans ses mains, Jeanne Mance avait porté Ville-Marie sur son cœur. Et Montréal pleure une mère. Mais Notre-Dame, on peut le croire, reçoit dans le monde de l'invisible, une âme dans laquelle Dieu se plaît à habiter. La divine providence a préparé Marie pour la joie du genre humain. Elle a aussi fait don de Jeanne Mance à Ville-Marie. Or, le rôle prophétique de tous ses fondateurs, est-ce que ça révèle qu'aujourd'hui Dieu est toujours à l'œuvre, on se le demande? Il faudrait écouter leur voix comme il faut du fond du cœur. Je vous invite, là, les jeunes auxquels j'ai dédié cette émission, ces jeunes filles de 15 ans et toutes les autres. Ces fondateurs ont ouvert pour nous un chemin de la foi impossible qui a suscité une grande œuvre sous le regard attentif de Notre-Dame du Montréal, comme on disait dans le temps. Mais qui écoute? Et là, les jeunes, écoutez Jeanne Mance. Écoutez aussi tous les autres, les jeunes. Réveillez-vous. Soyez à la hauteur. Ça vaut la peine. Je vais vous dire un secret. Il n'y a de bonheur que pour ceux qui les imitent. Il n'y a de bonheur que pour ceux qui imitent Jeanne Mance et tous les autres. On n'en démordra pas. Dieu éternel et tout aimant, nous te remercions d'avoir choisi selon ton plan d'amour cette courageuse jeune mance pour l'établissement d'une chrétienté à Ville-Marie, ici même à Montréal. Mets en nos cœurs l'esprit de discernement et l'amour de ta volonté, qui en ont fait, elle, une femme agréable à tes yeux, et l'une des fondatrices de l'Église de notre pays. Nous te le demandons par son intercession. Oh oui, daigne, Seigneur, glorifier Jeanne Mance, afin que bientôt elle soit proposée comme témoin de la foi qui fait grandir l'espérance, et de la charité qui dévore comme témoin de ta bonté, aux laïcs de notre Église, qu'elles deviennent témoins de ta bonté. Pour tous, nous tous, les laïcs de notre Église de Montréal, nous en avons tant besoin, Seigneur. Amen.